Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Beaucoup d'ouvrages témoignent de la Shoah, beaucoup de récits terribles, émouvants, éprouvants, nous questionnent indéfiniment sur la disparition de l'humain dans cette effroyable catastrophe. Catastrophe, traduction littérale du mot Shoah. Primo Levi, Elie Wiesel, Georges Samprin, Claude Lanzmann ont été parmi ceux qui ont pu parler de l'indicible et bien d'autres encore. Mais voici un récit différent, une véritable enquête sociologique, historique, humaine bien sûr, qui part à la recherche d'une famille, de son histoire et plus particulièrement de celle d'une jeune femme formidable de sensibilité, de dynamisme, de joie de vivre. Récit de sa courte vie et de son ultime acte courageux, sauver son enfant en l'abandonnant. Cet ouvrage porte le prénom de cette jeune femme, Lucia. Il est préfacé par Serge Glasfeld, édité par les éditions Hermann, et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Catherine Grinfogel-Drommerschlager. Oui, Catherine Grinfogel, bonjour.
Bonjour madame.
Alors, tout a commencé par une rencontre. Quand je dis tout, c'est ce roman, l'aboutissement, le début de ce roman. Une rencontre étonnante car liée à la rubrique carnet du journal Le Monde.
Exactement, oui. Édouard Drommerschlager avait publié une annonce, rappel de la mémoire de ses parents dans la rubrique nécrologique du Monde et dans d'autres journaux d'ailleurs. Et j'ai lu cette rubrique qui m'a beaucoup émue.
Ses parents étant morts
en déportation, il rappelait la mémoire de ses parents, il le disait leur nom, qui avait été déporté par le convoi numéro 31 le 11 septembre 1942. Il racontait un petit peu l'histoire du convoi. Le convoi était dirigé par le Feldwebel,
quelques détails.
Et il finissait cette annonce avec des mots qui m'ont particulièrement touchée. Je n'éprouve ni haine ni vengeance, mais jamais je ne pardonnerai, jamais je n'oublierai. Alors, ça m'a beaucoup touchée pour différentes raisons d'ailleurs, dont des raisons personnelles, et je lui ai écrit.
Voilà, c'est comme ça
c'est
que
comme
vous
ça.
Vous êtes rencontrés.
Exactement.
Alors oui, Édouard, dont vous parlez, a une jeunesse particulièrement compliquée, sous le signe du deuil, et partagée ensuite entre la France et Israël, si j'ai bien compris, plus ou moins.
Oui, son cœur était partagé entre la France où il avait la famille du côté de son père qu'il avait recueilli, et Israël où vivait la famille de sa mère.
Et tout porte à croire qu'il y avait un traumatisme enfoui. Vous en parlez un petit peu, et je pense qu'il ne souhaite pas que nous en parlions ici, mais c'est vrai qu'une enfance, un début de vie tel qu'il a connu, il y a effectivement de quoi perturber un enfant, le laisser sensible à bien des égards.
Le traumatisme dont vous parlez, je pense qu'il l'a encore. Il l'a encore parce que bon, il n'a jamais travaillé dessus, il n'a jamais été voir un psychanalyste ou enfin un psychiatre, quelque chose qui puisse l'aider. Ce n'était pas dans l'air du temps. Mmh. Et ma foi, aujourd'hui, il considère que c'est comme ça, mais il l'a toujours, oui, c'est certain.
Alors, ce qui a vraiment amorcé votre enquête, j'ai parlé d'enquête,
oui.
C'est une lettre sur un papier tout chiffonné, écrite à la va-vite, arrivée à son destinataire, Édouard, 43 ans après,
oui.
Et ça va être déterminant pour lui et pour vous.
Exactement, déterminant pour lui, parce que si vous voulez, jusqu'à l'âge auquel il a reçu cette lettre, il essayait d'occulter un peu cette histoire douloureuse. Il avait été heureux, curieusement, parce qu'il a été élevé par une famille aimante. Il a toujours été...
Son oncle et sa tante
ont été très bons pour lui. Ils l'ont élevé comme leur enfant. Donc, il a eu une enfance heureuse. Cela favorise, si vous voulez... Il essayait d'occulter un peu tout ça. Mmh. Il l'avait en lui, mais il l'occultait. Mais lorsqu'il a reçu cette lettre, un choc terrible.
Ah, oui. Si vous le permettez, on va l'écouter. Et elle a été lue
Alors oui, elle a été. Édouard l'avait fait. Enfin, il l'a fait lire sur fond musical par une jeune femme, une jeune comédienne, je crois. Et cet enregistrement est très beau, je trouve, lui aussi.
On l'écoute.
Mon très cher petit bébé unique. J'espère que mes quelques mots te parviendront et tu pourras les lire un jour quand tu comprendras la gravité des événements. Mon petit chéri. Ton papa ne se sent pas de force pour t'écrire quelques mots. Or, crois-le, mon petit, que toutes nos pensées les plus tendres, nos vœux les plus ardents, vont vers toi, mon bébé unique. Nous t'adorons, mon petit-fils. Tu es notre pensée unique. Et nous sommes obligés de te quitter, de t'arracher de tes plus proches, au moment où tu en as tellement besoin. Mon petit amour chéri, il ne faut pas nous en vouloir un jour si nous t'avons fait quelque tort. Tu es un homme. Sois toujours fier et orgueilleux, comme tu l'étais déjà étant tout petit. Je ne sais pas si nous pouvons garder l'espoir de te revoir un jour. En tout cas, si nous serons perdus ou morts, adresse-toi, dès que les événements le permettront, à tes grands-parents, pour lesquels tu remplaceras les enfants perdus. Sois bon et indulgent. Adresse. G. Bialystok. Sois sage et bon, gentil pour ta tante et oncle, et remercie-les en notre nom de tout ce qu'ils feront pour toi. Je t'embrasse de tout mon cœur meurtri. Ta maman. Baiser de papa et bon papa.
Voilà un message d'amour et de courage extrêmement émouvant. Émouvant. Et puis bon, évidemment, nous femmes, nous comprenons aussi cette terrible souffrance de la part d'une mère, mais en même temps, message d'amour et de courage. Une mère qui donne à son fils d'ultimes conseils pour qu'il mène sa vie. Finalement, il a bien mené sa vie.
Eh bien, écoutez, il a mené sa vie exactement comme sa mère le lui avait dit, alors qu'il ne le savait pas. Et
oui,
il a été exactement ce que sa mère voulait pour lui.
Et alors, cette lettre, finalement, on ne sait pas si elle a pu la donner alors qu'elle était orientée d'abord, elle était menée avec son mari et ses beaux-parents vers un camp de en France.
Un
puis après,
camp, c'est-à-dire qu'ils étaient dans les Pyrénées-Orientales, dans un petit village.
Voilà, on va en parler ensuite.
Ah, d'accord.
Et puis ensuite, ils ont été envoyés dans un camp en Allemagne.
En Pologne.
Oui, dont ils ne sont pas revenus. Alors, on ne sait pas si cette lettre a été donnée à un chef de gare ou à un inconnu ou jetée par la fenêtre du train. On ne sait pas. En tout cas, elle est arrivée quand même.
Elle est arrivée, peut-être même dans les temps normaux pour l'époque.
Oui.
Mais l'oncle d'Edouard n'a pas voulu la lui donner parce que...
Oui, parce que, voilà, il a reçu... Bien plus tôt, l'oncle l'a reçu. Bien plus tôt,
oui.
Mais Édouard ne l'a eu entre les mains qu'à 42 ans après.
Au décès de l'oncle.
Oui.
C'est-à-dire
pourquoi,
que...
Y a-t-il une explication à cela?
Vous savez, l'époque n'était pas la psychologie, ce qu'on fait aujourd'hui pour les enfants, ben on ne le faisait pas à l'époque, et ainsi de suite. Et donc, l'oncle d'Edouard a considéré que ça...
Il croyait le préserver.
Il croyait exactement le préserver. Il croyait le protéger.
Mmh. Ouais.
La lettre a été remise à Edouard quand l'oncle est décédé. Parce que la tante qui restait, elle lui a donné à ce moment-là.
Oui. Alors, c'est vrai que ça a été déterminant certainement pour lui. Quel choc. Et pour vous.
Oui.
Cette lettre destinée à votre mari, on comprend qu'elle vous est touchée en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'identification?
Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Vous pensez à la lecture de la lettre
Non, je pense surtout au fait que... vous êtes une femme, vous êtes...
Oui.
Et vous, le fait de vous êtes mis à sa place, on peut imaginer très bien ce désarroi et cet élan
oui,
d'amour vers
dans
son
ce
fils.
Sens-là, oui, oui, oui. Je me suis imaginée, effectivement, enfin, de toute façon, il me semble que toute personne qui oui. entend ou qui lit cette lettre ne peut que s'identifier.
Et alors, c'est à partir de là que
oui.
vous avez décidé d'écrire un livre. Et je dirais que c'est... pour plusieurs choses. D'abord, il y a pour votre époux, j'imagine. Non?
Eh bien, je vais vous étonner peut-être. Au début, effectivement, en fait, bon, je connaissais cette histoire, la lettre, j'avais été très émue. Et puis, bon, j'étais avec Édouard qui me parlait tout le temps, enfin, régulièrement de sa mère. Il me parlait très souvent de sa mère. Alors, je lui posais des questions. Et il me disait, je ne sais pas. Dans l'histoire de sa mère, pour les quelques éléments qu'il en avait, il y avait des trous, si vous voulez.
Il savait très peu de choses, finalement.
Il savait très peu de choses parce que les familles, il avait la famille des deux côtés qui lui ont dit quelques éléments, qui lui ont lâché quelques éléments, quelques trucs. Mais il n'osait pas aller plus loin, il n'osait pas leur poser plus de questions de peur de leur faire de la peine. Tout le monde était très douloureux dans ces familles.
Et ce que vous dites, en plus, c'est vrai qu'à une époque, on préférait cacher pour ne pas, en pensant que c'était mieux que de réveiller
c'est
des
ça.
Choses,
on
des sentiments.
On ne racontait pas, on ne parlait pas, on n'expliquait pas.
Oui.
On n'a jamais dit à Édouard, par exemple, il est élevé dans cette famille de l'oncle et de la tante, qu'il appelait papa et maman. Les cousins sont devenus ses frères, mais ils savaient très bien que ce n'était pas le cas, puisqu'il avait un nom d'abord différent du leur. Il était différent à tous égards, de très nombreux égards, mais on ne lui a jamais dit tout ça.
Donc, cette vérité, il en avait finalement besoin. Est-ce qu'il a pu participer? Apparemment, oui, parce qu'on on parlera de vos voyages.
Oui.
Il a participé, il vous a...
Ben, disons que c'est douloureux pour lui, c'est très oui. douloureux. Alors, il m'a accompagné, il ne l'aurait jamais fait seul, m'a-t-il dit. Il m'a accompagné.
Mais... Avec vous, c'était différent.
C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me dit, oui.
Alors, pour vous, pour votre mari certainement, pour Lucien, parce que
oui.
qui méritait qu'on se penche sur sa vie, sur son destin, elle méritait qu'on immortalise hein, cette jeune femme si morte si jeune, laissant son enfant, le confiant si vite.
Cette lettre, elle était si belle, cette lettre que oui. je me suis dit... et puis alors je vous dis, son histoire avait des trous, des manques, et c'est alors que je lui ai dit, vraiment, elle mérite effectivement une recherche, elle mérite qu'on la,
ah oui.
qu'on la sorte, vous savez,
de
c'est Serge Klarsfeld.
Oui, j'en parle, oui, oui, effectivement, vous avez raison. Alors Serge Klarsfeld a fait une très belle
oui.
introduction, une préface, et c'est vrai que vous l'avez sorti de l'anonymat, et je dirais même que c'est également, ce livre est écrit pour tous ceux qui sont morts justement dans l'anonymat.
Exactement, c'est oui. elle, et puis c'est pour tous les autres aussi,
oui.
c'est
oui,
pour
oui.
tous les autres aussi.
Alors, c'est donc un récit, on parlera de vos recherches, mais c'est aussi un roman. Et je dis bien que c'est important parce que, à certains endroits, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'identification, mais par un procédé d'identification que je comprends tout à fait, vous décrivez des sentiments, des
oui.
états de joie, de peine, d'angoisse, que vous ne pouvez pas connaître,
non, ben,
mais
bien
que,
sûr.
Évidemment, on peut imaginer.
Oui, exactement, oui. Si vous voulez, j'ai pu reconstituer des faits, des moments, des passages, mais comme vous le dites fort bien, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a pu dire, etc., je ne pouvais pas le
bien
savoir.
Sûr.
Et je me suis mise dans sa peau mm-hmm. pour essayer de l'imaginer, si vous voulez.
Oui, voilà, et ça ne choque pas, au contraire, tout est absolument crédible, voire probable même, et je dirais que dans votre texte, ça apporte cette note d'humanité, de sensibilité, dans un univers ô combien terrible, finalement.
Ben oui, sinon, ce n'aurait été finalement ce récit qu'une suite de faits, de
oui,
dates,
de faits tragiques.
Et effectivement, cela... Peut-être, enfin, vous me le dites, mais un peu d'humanité dans ces faits inhumains.
Oui, de l'humain, voilà. Et puis, en fait, alors, c'est un récit non linéaire. D'habitude, je parle de la construction en fin d'interview, mais là, c'est très intéressant parce qu'il y a des allers-retours dans le temps, des insertions de chapitres pour rappeler les faits historiques qui ont leur importance, ô combien. Ou pour raconter la progression de votre enquête, parce que votre ouvrage est émaillé de voyages, courts voyages ou plus ou moins longs, en Pologne particulièrement, ou encore pour présenter un membre de la famille, comme l'oncle Simon par exemple.
Oui.
Et il y a des parenthèses aussi, de grandes parenthèses, pour évoquer le désarroi des enfants placés dans les hommes qui ne voient pas leurs parents revenir. Ou alors, ce dont vous parlez à un moment donné, bon, je ne sais pas si on aura le temps de le lire, mais de ces enfants qui sont séparés de leurs parents et envoyés dans les camps. Voilà, et vous en parlez, et effectivement, là, ce sont des passages extrêmement bouleversants dans tous les cas. Alors, il y a aussi des lettres officielles, on y reviendra, véritables et révoltants, pour moi, des révoltants témoignages du comportement des préfets de l'époque. Alors je dis des préfets, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns qui ont sauvé l'honneur, mais en tout cas, on pourra en lire un extrait de certains préfets. Alors, et votre ouvrage contient des photos.
Oui.
Oui.
Nous avions quelques photos qui ont été sauvées de ce désastre, je ne sais même pas comment, que la tante d'un côté a gardé, la tante paternelle, la tante maternelle en avait un petit peu aussi, celle que Édouard a retrouvée en Israël quand il avait 13 ans, parce qu'il y a aussi l'histoire de la famille maternelle qui
Et
ne
oui.
sait pas où il est, qui le recherche, qui le trouve grâce à la Croix-Rouge internationale.
Oui.
Et
ah
puis,
oui, grâce à la Croix-Rouge
oui,
internationale,
oui.
d'accord.
J'avais lu quelque part, je ne sais plus... je ne sais plus l'auteur, qui disait qu'après la guerre, tout le monde cherchait tout le monde.
Oui.
Il y avait eu tellement de personnes déplacées, exterminées, tuées, assassinées. Oui. Et donc...
des photos ont été sauvées.
Et puis, on en a trouvé d'autres par une sorte de miracle, enfin, je ne veux pas parler, miraculeusement, en quelque sorte.
Oui.
Par notamment, vous savez que Lucia avait un fiancé, le premier fiancé qu'elle avait.
On en parlera, de la vie amoureuse de Lucia.
C'est ça, la vie amoureuse de Lucia, parce que dans ce livre, il y en a trois au moins.
Oui, mais on comprend pourquoi, compte tenu de son caractère, elle est tellement pleine de vie.
Exactement.
Et alors ces photos qui sont des petites photos comme on faisait à l'époque, mais quand on regarde attentivement, justement, on la découvre, on voit qu'elle est, elle est volontaire et en même temps pleine de vie et puis pleine d'amour. On la voit avec son petit garçon, c'est très émouvant de voir ces photos.
Oui.
Voilà, et c'est évocateur d'une époque et de moments encore heureux. Et on se dit, dans cette tourmente, il y a eu ces moments-là, elle a eu ces moments-là.
Ben, moi, je pense et j'espère, mais je le crois, je pense que Lucia était heureuse, malgré un fond d'inquiétude, un fond de tourment. Bon, c'était des périodes pas faciles et certainement pas pour, encore moins pour les Juifs.
Et c'était la joie de vivre.
Elle était la joie de vivre et je pense qu'elle a su profiter, si je puis dire, bien que je n'aime pas trop ce verbe, mais oui, profiter, tirer... joie et bonheur de ces moments.
Justement, ces photos nous rendent encore plus proches, lecteur, je crois, de ces personnes qui sont dans votre livre et donc de Lucia, bien entendu. Alors, comment avez-vous procédé pour écrire le récit lui-même, pour rassembler les faits? Vous avez enquêté.
J'ai enquêté, J'ai enquêté. Alors, nous savions que Lucia était née dans une ville de Pologne qui s'appelait Białystok. Donc, on a commencé par là. J'ai dit à Edouard, nous allons aller à Białystok. Il doit y avoir des archives municipales. On va peut-être trouver quelque chose. D'ailleurs, vous avez lu dans mon livre qu'à un moment, je me suis prise à croire et à espérer que nous pourrions peut-être trouver à Białystok des témoins de l'époque. Par exemple... une jeune fille qui aurait travaillé chez les parents de Lucia, certainement pas des Juifs parce qu'il n'y en a plus. Ils ont tous subi plus ou moins le même sort. Mais je me disais peut-être une voisine chrétienne, une copine de l'école, non, parce qu'elle allait dans les écoles juives, mais une voisine, une personne qui aurait travaillé, qu'on pourrait trouver. Je me disais, elle aurait peut-être 90 ans aujourd'hui, pourquoi pas. Et j'ai mis à Białystok une annonce dans le journal. Dans un journal, la Gazeta Białystoka, enfin, c'est difficile avec Białystok et tous les mots polonais.
Oui, c'est compliqué.
Ils se déclinent.
Oui, c'est ça.
Alors,
et là, vous avez une réponse, des réponses.
Alors, curieusement, d'abord, on avait été donc à Białystok et on avait trouvé un historien qui nous a fait les recherches aux archives et qui a trouvé des choses. Puis, plus tard, j'ai fait mettre une annonce dans le journal et j'ai eu une réponse. Oui, j'ai eu la réponse de l'historien qui... Alors voilà, c'était l'historien qui faisait des recherches sur la rue où habitait Lucia. Et parce que nous avions l'adresse de la rue. Et donc, il a pu me dire tout de suite dans sa réponse, mais vous savez, j'ai fait des recherches donc, dans cette rue, je sais que cette maison-là appartenait à Nozon Gourvitch, qui était donc le père de Lucia, lequel l'avait acheté d'un tel, d'un autre. Enfin, il nous a sorti tout un tas d'éléments.
À côté d'un hôtel
à côté du musée de l'armée polonaise. Et dans la même rue, plus haut, il y avait à l'époque, quand nous avons été en 2010, il y avait une belle maison en travaux. Et je suis allée en juillet dernier à Białystok. Et cette maison en travaux est devenue un hôtel où j'ai séjourné.
D'accord. Oui. D'accord. Donc, déjà, vous avez pu situer les lieux. Mais c'est vrai qu'on imagine que ça devait être compliqué parce qu'il y a le temps qui a fait son œuvre. Il y a beaucoup de disparus. La destruction des lieux.
Surtout en Pologne. Vous savez, la Pologne a été détruite, je crois, à 80%. Et Białystok, peut-être à 90%. Il restait très peu de choses.
Oui. Donc, quand vous y êtes allé, c'était reconstruit.
Oui. Il y avait les parents de Lousia avaient une bonne situation, ils habitaient dans une très belle rue. Il y avait à côté le palais Branitski, qui était le palais où descendaient les rois de Pologne. Et en face, il y avait l'hôtel Ritz et il y avait leur maison. Tout cela a été détruit.
Ah oui.
Mais le palais Branitski a été reconstruit à l'identique. Et c'est aujourd'hui, je crois qu'il abrite, donc j'en suis sûre, la faculté de médecine. Mais la maison de Lousia n'existe plus, c'est un terrain vague. Et le Ritz en face n'existe plus non plus, c'est un jardin.
Voilà. Alors, disparition des bâtiments, disparition des témoins, des archives, beaucoup d'archives ont été détruites,
oui,
évidemment.
Oui.
Donc, difficulté d'une enquête qui s'avère, qui va être longue.
Oui.
Et puis, le premier séjour a été difficile, j'imagine.
Il a été difficile parce que on avait très peu d'éléments. On est allé à Bialystok la première fois, mais pour une journée très courte, donc on n'avait pas le temps de creuser beaucoup. Et donc j'ai ressenti une grande frustration en voyant justement l'emplacement de la maison de Lousia, qui était un terrain vague. Et je savais que c'était là et il n'y avait rien.
Il n'y avait plus rien.
Et je pense que ça a été peut-être... un point important parce que j'étais tellement frustrée de ce point de vue-là que j'ai dit à Edouard, mais enfin, justement, comme il y avait le palais Branitski à côté et l'hôtel Ritz en face, il doit bien exister des photos. Vous savez, dans le
ça temps... Ça vous a stimulé.
Oui.
Vous êtes comme Lucia.
Mais écoutez, je vous remercie de me le dire parce que pour moi, c'est un grand compliment. Et on me le dit quelquefois et ça me touche beaucoup.
Alors, Catherine Greffogel, nous allons écouter un extrait du film Yentl. C'est vous qui l'avez choisi. Effectivement, un très beau film dont la musique est écrite par Michel Legrand.
Oui.
Et c'est Un été 42.
Oui.
C'était l'été 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offerte. C'était l'été. Thank you.
parole d'auteur. Monique Fauché.
Pardon aux auditeurs cinéphiles, c'est un extrait du film lui-même nommé Un été 42 et non pas Yentel. De toute façon, deux très bons films que l'on ne peut que vous recommander. Voilà, je suis en compagnie de Catherine Grainfogel, auteure d'un récit, d'un livre, d'un ouvrage qui est à la fois, comme je l'ai dit en exergue, un roman, une enquête, un roman historique, puisque beaucoup de faits historiques sont notés, qui est fort émouvant et fort instructif également. Alors, revenons à Luzia, Catherine Grainfogel.
Oui.
Sa famille, en gros, quelle était-elle ?
Famille aisée, le père propriétaire de plusieurs manufactures, des usines, donc il faisait de la ouate. Il avait plusieurs magasins dans Bialystok, dont on a trouvé des traces. D'ailleurs, dans nos recherches aux archives, on a trouvé des associations avec un tel, avec l'autre. Ouais. Et puis, la mère, bon, ne travaillait pas, mais c'était une femme cultivée, puisqu'elle avait le bac, vous savez,
oui,
en 1900,
à l'époque
ouais. Une femme juive, ouais, ouais. En Pologne. Ouais. Tout ça, ce sont des éléments qui jouent. Bah, c'était quand même assez exceptionnel.
Et les relations mère-fille, parfois, parce qu'assez strictes,
oui.
De toute façon, je crois que c'est un peu classique, les filles sont très proches du père. Là, la fille était très,
oui,
proche,
était
de
très proche de son père. Alors, nous avons su cela par la tante, parce que la sœur de Luzia, que Édouard a retrouvée, donc...
Qui est partie en Israël.
Qui est partie en Israël, parce que eux, la famille de Luzia, qui était restée à Bialystok, en Pologne, ont été déportés par les Russes.
Alors voilà,
oui.
Alors donc on est en 38, il y a des signes très inquiétants, la politique agressive de Hitler,
oui.
À l'égard des juifs allemands et des pays voisins, et puis la montée de l'antisémitisme en Pologne qui se fait de plus en plus sentir,
oui.
Et il y a, alors ça aussi, je l'avais complètement occulté, il y a ce pacte germano-soviétique, et les Russes envahissent la Pologne, Et vont déporter les capitalistes juifs.
Oui, pas que juifs. Alors,
les capitalistes.
Les capitalistes,
ceux qui
les intellectuels.
Comme...
Puis alors,
les intellectuels aussi.
Aussi, tout le monde après. Parce que, vous savez, quand je suis allée à Bialystok, je parlais avec des Polonais non-juifs et qui me disaient qu'ils en ont encore la meurtrissure de ces déportations, dont ils ont été aussi les victimes. Alors,
oui.
Je leur dis, mais qui a été déporté ? Ben, je vous dis, les capitalistes d'abord, après les professeurs, tout ce qui était intellectuel, et puis ils finissent toujours par me dire, et puis tout le monde.
Oui, en finale, tout le
en
monde.
En finale, plus ou moins tout
mais,
le monde.
Mais hélas, je dirais, après leur départ, ce sont les Allemands qui sont arrivés.
Ce sont les Allemands qui sont arrivés, oui.
Voilà. Alors, avant cela, la solution du départ en Israël, justement, je pense que dans toutes les familles polonaises et d'autres pays, des familles juives, il y avait cette question, faut-il rester, faut-il partir ? C'est un douloureux débat, là aussi.
C'était un très douloureux débat. Luzia voulait partir et son père, d'ailleurs, avait envoyé des fonds là-bas, on ne sait jamais, en Palestine, c'était la Palestine, puisque Israël n'est apparu qu'en 1948. Et d'autres, la mère de Luzia n'avait pas, se plaisait bien, elle avait une vie agréable en Pologne, il y avait
et
ceux
puis,
qui...
Et puis tout laisser.
C'est ça, tout laisser, alors on voit bien qu'il y a des signes inquiétants, mais on se dit, bon ben, ça va se
on
calmer,
peut pas imaginer
peut-être on peut pas imaginer,
non,
on peut pas
on
imaginer,
peut pas.
Non,
on peut pas.
Non, non.
Oui. Puis on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas aussi.
Ben, là-bas, c'était un vaste marécage. Là-bas, il n'y avait rien
oui,
à l'époque.
Rien.
Donc, voilà, quitter finalement une vie agréable, confortable pour partir dans l'inconnu,
oui.
Je comprends que ça puisse faire peur.
Alors, Luzia, donc, qui a une sœur dont vous venez de parler, un frère
Bronia,
également.
Bronia, Oscar.
Un
oui.
frère. C'est une jeune fille jolie, vive, gaie, pleine de vie, d'allant.
Oui, oui.
Dynamique et volontaire.
Très.
Elle tient tête à sa mère. Hein.
Oui,
elle tient
oui,
tête
oui.
à un caractère bien trempé. Une grande liberté d'esprit.
Oui.
Et puis, beaucoup de charme, je dirais. Parce que, bon, on voit qu'elle a été très courtisée. Et d'ailleurs, c'est
elle
très drôle.
Elle le dit dans les lettres, elle le dit.
Oui, elle le dit. Et alors, il y a des lettres, d'ailleurs, touchantes que vous citez, qui sont touchantes parce que spontanées
oui.
et naïves, elle est toute jeune. Par exemple, elle dit « Nous sommes tous deux jeunes, assoiffés de vie et d'amour ouais. ». Alors, elle écrit ça à Auxerre, au chaud, je pense
qu'on dit au chaud.
Ou alors elle dit « Je suis fraîche et belle comme jamais ».
Voilà. Là, oui,
alors, il
oui.
y a des je crois qu'on n'aura pas le temps de lire Catherine Grainfogel. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de passages que j'avais notés, mais le temps passe très vite. Alors, finalement, elle réussit à partir à Anvers. On lui accorde cette chance-là.
Oui.
Là, un nouvel amour, parce que dans un premier temps, elle a rencontré Auxerre, elle a 18 ans.
Oui.
Il va et vient entre la Pologne et la Palestine.
Oui.
Mais la mère de Luzia ne l'apprécie pas.
Non.
Elle s'oppose au mariage. Et puis, on n'a pas les lettres. On a les lettres de Luzia, mais on n'a pas ses lettres à lui.
On n'a pas les lettres de ce garçon.
Voilà. Alors, là, elle rencontre, on est en 39, un nouvel amour, le bon, le vrai, celui-ci, c'est Raphaël Grainfogel.
Non, Drommelschlager.
Pardon. Ah oui, pardon. Oui, Drommelschlager, qui est lui aussi dans la même école de commerce, je crois, quelque chose.
Lui, il fait un diplôme en plus, elle est là, ils se rencontrent
à cette école.
Oui.
Il est d'un milieu un peu analogue, cultivé, éduqué, élégant même, et sur la photo, il paraît très sympathique. Alors, sauf que maintenant, pour elle, la situation financière décline, et pour lui, je pense au père de Raphaël, il doit faire les marchés. Alors on voit cet homme très élégant justement qui très courageusement
est obligé, parce que c'était un homme éduqué, il avait un diplôme d'ingénieur, mais en Pologne il avait repris les affaires de son père. Et puis, il a fait des mauvaises affaires. Je crois qu'il joue en bourse. Enfin, il avait mal géré son argent. Il s'est retrouvé sans rien.
Oui.
Et un cousin, qui était déjà...
Il fait miroiter.
Viens en Belgique, je vais te mettre le pied à l'étrier. Puis ça ne fut pas le cas.
Lui, et la situation matérielle de Luisa non plus n'est plus brillante, de plus en plus difficile. En fait, ses parents partent en Sibérie.
C'est ça.
Et voilà. Et elle n'a plus du tout de subsides. Bon, il y avait eu un échec à un examen, je pense, parce qu'elle était brillante, qu'elle était peut-être occupée sentimentalement.
Peut-être.
Mais elle réussit la session suivante. Et puis, donc elle se retrouve démunie. Et elle se retrouve enceinte. Et là, à ce moment-là, évidemment, cas de conscience, terrible. Quelle situation, alors qu'il y a tous ces dangers qui rôdent autour d'elle, cette absence totale de moyens. Mais Raphaël, qui est le père de l'enfant, accepte de l'épouser.
Oui.
Il se marie. Il se marie.
Oui.
Et c'était un mariage heureux. Alors. Oui. C'était vraiment, je pense à cette jeune femme que l'on voit donc sur les photos, toute souriante, riant même. Elle n'a pas eu un chemin pavé de roses. Elle a plus de famille, elle a plus d'argent. Elle est enceinte, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Finalement, elle se marie. Parce qu'en fait, je pense qu'elle a une telle dose d'optimisme, de foi en la vie.
Exactement.
Elle arrive à
accepter la situation, à tout dépasser, tous ses chagrins, tous ses inquiétudes aussi à propos de sa famille, à propos de toute la situation finalement.
Exactement.
C'est difficile pour elle.
Alors, et quant à l'histoire, alors que se passe en mai 1940, l'Allemagne envahit plusieurs pays.
C'est ça, et les Allemands rentrent en Belgique.
Oui.
Et il y a beaucoup. Alors, les Juifs sont partis de Belgique. Il y a eu un gros exode, mais pas que les Juifs. Il y a eu beaucoup de Belges qui sont partis quand les Allemands sont rentrés parce qu'ils avaient le souvenir de la Première Guerre mondiale, qui fut terrible aussi. Et donc, il y a eu beaucoup de Belges qui. J'ai retrouvé d'ailleurs des journaux de l'époque, même de la Dépêche. Où on disait qu'il y avait toute l'université de je ne sais plus quelle ville de Belgique qui se retrouvait sur les quais de la Garonne. Il y avait énormément de Belges dans la région.
D'accord.
Et Luzia et sa famille, certainement beaucoup de Juifs parmi ces Belges.
On imagine ce périple, ce chemin de l'exil, pénible voyage, parce qu'elle est enceinte de 8 mois,
oui.
Et vous notez la longueur du trajet pendant 10 jours.
Oui, que c'est Hilda qui nous l'a dit, la sœur de Raphaël, la tante qui a élevé Edouard, qui était là. Elle était jeune fille, elle n'était pas mariée.
Alors oui, parce qu'il y avait donc Lucia, son mari.
Les parents du mari et la sœur du mari.
Voilà,
Hilda.
Ils sont partis à 5.
Ils sont partis, oui, exactement, à 5 et demi, puisque Edouard
et oui,
était prêt à naître. Elle était enceinte de 8 mois.
Oui, alors bon, la chaleur, vous racontez, elle devait être extrêmement fatiguée.
Oui.
Et donc, tout le monde arrive à Toulouse.
Oui.
Au bout de 10 jours.
Oui, un voyage dantesque, parce que franchement, de Anvers jusqu'à Toulouse, aujourd'hui, on ne mettrait pas 10 jours, c'est
bien sûr.
Sûr.
Bien sûr. Et là, elle va accoucher.
Oui, elle accouche à La Grave, à l'hôpital de La Grave.
Oui, tout près d'ici.
Tout près d'ici.
Oui. Oui, voilà, d'un petit garçon plein de vie. Et donc, oui, quand je dis que c'est un voyage terrible pour elle, mais je pense pour les beaux-parents également, qui étaient, du moins, la mère...
Elle était malade, oui.
La mère de Raphaël était malade.
Fatiguée. Elle était malade,
oui.
Déjà,
oui. Bon, alors, quel accueil est-il fait à Toulouse? De toutes ces familles réfugiées?
Eh bien, les autorités ont installé des petits bureaux sur la place du Capitole, un peu partout. On les récupère d'ailleurs à la gare. La Croix-Rouge leur donne à manger aux étapes intermédiaires. Et puis, on les oriente. Vous irez là, vous irez là. Et là, on les oriente, cette famille-là, la famille de Lousia, on les oriente sur Roques-sur-Garonne. Et vous savez que j'ai retrouvé... Alors, c'est marrant parce que J'avais mené l'enquête partout, sauf à Roques-sur-Garonne, en fait, parce qu'ils ne sont restés qu'un mois ou à peu près
un
laps de temps très court avant de reprendre le périple, puisqu'ils voulaient passer en Espagne. Et à Roques-sur-Garonne, donc, je n'avais pas fait de recherche, mais il se trouve que, bon, par un concours de circonstances, on nous a renvoyé, Edouard et moi, sur une dame de Roques-sur-Garonne qui pouvait nous donner des informations, puisque son grand-père s'occupait des réfugiés.
Madame Bouissou.
Madame
son
Bouissou.
Grand-père était général, non?
Exactement, son grand-père était général Thiebault. C'était Madame Bouissou et une dame intermédiaire que nous nous oriente sur cette dame en nous disant, vous savez, son grand-père s'occupait beaucoup des réfugiés, vous devriez peut-être la voir. Et nous nous sommes mis en relation avec cette dame. Et quand Edouard lui a envoyé les photos de sa mère, elle l'a reconnue formellement. Ah. Elle avait 12 ans. Ouais. C'est une dame qui, aujourd'hui, d'un âge vénérable...
Elle se souvenait de Lucia.
Elle a la tête très claire, elle est très sympathique, très charmante. Et cette dame-là, quand d'abord c'est Edouard qui a commencé, parce qu'elle habite Paris, et elle ne vient à Roques-sur-Garonne que l'été. Et donc ils ont commencé à communiquer comme ça. Et quand Edouard lui a envoyé les photos, parce qu'elle raconte qu'elle avait 12 ans, et qu'un jour son grand-père lui dit, écoute, j'ai une maman qui vient d'avoir un bébé, est-ce que tu accepterais de lui donner ta chambre. Les autres dormiront dans le grenier, c'est toute une famille, mais est-ce que tu voudrais lui donner ta chambre? Alors, la dame, Madame Bouissou, nous raconte qu'elle a dit, mais oui, elle était contente. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la joie de vivre de Lousia, eh bien, Madame Bouissou, alors, on a fini par la voir au mois de juillet dernier, vous vous rendez compte, le livre était presque bouclé.
Oui.
Et c'est pour ça que je n'ai pas pu mettre grand-chose sur cette question, sinon ça aurait décalé tous les chapitres. Mais j'ai pu quand même mettre... ce dont vous parliez tout à l'heure, Madame Bouissou nous a dit, je me souviens, elle était heureuse. Elle était heureuse d'avoir un bébé. Les autres avaient des tristes mines, mais elle était heureuse. Oui.
Voilà, alors évidemment, ils vont se diriger vers l'Espagne, mais ils vont s'arrêter en cours de route. Et là, on va regretter qu'ils s'arrêtent parce que...
Ils ne s'arrêtent pas volontairement, on les arrête.
Oui, on les arrête, c'est ça. On les arrête, mais alors moi j'ai cru comprendre aussi qu'ils étaient tellement fatigués, que la mère était tellement fatiguée qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin.
Non, il est vrai que la mère était très fatiguée. D'ailleurs, elle est décédée dans ce village des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Yo. Mais la principale cause de leur arrêt là, c'est qu'ils n'avaient pas les papiers en règle et qu'on les a empêchés de passer. D'ailleurs, c'est ce qu'indique l'une des lettres officielles qu'on a retrouvées.
Voilà, voilà. Alors là, écoutez, est-ce que je vais lire la lettre, une partie de cette lettre La situation des dromadaires. Alors, il s'agit du commissaire principal de Bourg-Madame à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Prades. La situation des dromelschlager. Et en détail, dans mon rapport de Mirotan, la conclusion de ce rapport était l'éloignement de ces juifs étrangers à Toulouse, où ils ont des parents et où leur surveillance aurait été facile à réaliser. Or, sans que mon service en fût prévenu, ces étrangers, entre guillemets, furent invités à quitter Lyon pour Saint-Paul-de-Fenouillet par l'intermédiaire du maire de Lyon. Mais le même jour, un bail engageant pour un an le locataire au presbytère de Lyon, propriété communale pour la somme de 1600 francs, était approuvé à la préfecture des Pyrénées-Orientales au bénéfice d'Edwige Dromelschlager. Bien entendu, ces Israélites font aujourd'hui état de cette approbation pour persister à demeurer à Lyon. Ils ont effectivement sous-loué un champ, etc., etc. Ils ont complanté 130 kilos de pommes de terre, des pois, des betteraves rouges. Attendez, c'est effarant de voir dans quel état ils ont. Pourquoi tous ces détails? Ce retour à la terre opéré par des diamantaires et ex-bonnetiers est un prétexte utilisé pour demeurer à Lyon. Or, la région frontière où ils se trouvent est soumise à une surveillance difficile de par la nature même de l'enclave de Lilivia, toute proche, où les Juifs en question sont soupçonnés d'écouler des œufs au prix fort et naturellement une source de profit pour trafiquer avec intelligence, enfin, etc., etc. Oui. C'est lamentable, c'est de d'une perversité cruauté, et de oui. bêtise en plus.
Oui, et d'une de sécheresse de cœur, moi je dirais, une sécheresse de cœur. Mais comment oui. peut-on parler comme ça de personnes dont on sait qu'ils n'ont rien? On oui. a retrouvé des cartes, d'ailleurs, où il y a marqué état de fortune, rien. Qu'est-ce oui. qu'il a? Rien. Ils n'ont rien.
Oui, voilà, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on a honte quand on lit ça. Je pense qu'il y a heureusement d'autres Français qui ont eu d'autres comportements. Bien Alors, sûr. Oui, le sous-préfet d'ailleurs semble moins zélé dans ses lettres.
Hein. Oui.
Oui. Alors, en fait, un jour, il faut faire vite, malheureusement, Catherine Grinfogel, je suis désolée, mais un jour, Luzia voit tout de suite qu'il y a une voiture de la gendarmerie qui est en bas de la rue et elle a un esprit très prompt. Elle a compris tout de suite qu'on venait les chercher parce qu'il y a eu des échanges, on leur a demandé des papiers, etc.
C'était la rafle du 26 août 1942, la grande rafle des voilà. Juifs étrangers oui. en zone libre.
Oui, en Ça, zone libre terrible. En plus. Et elle se précipite, sans faire de bruit malgré tout, chez des voisins oui. à qui elle va confier son petit garçon de 2 ans.
Oui.
Voilà.
Oui.
On imagine dans quel état d'esprit elle se trouvait, puisqu'ils sont partis, donc en les laissant, ils sont partis pour ne plus jamais revenir.
Oui.
C'est Incarnation Raymond et son mari qui ont, se sont occupés d'Edouard le temps de la guerre.
Oui, c'était
son
les
mari
voisins.
Était très attaché à lui.
Oui.
Et puis ensuite, ce sont l'oncle et la tante qui habitaient Toulouse qui ont récupéré donc
oui, parce
Raphaël.
Que eux-mêmes se cachaient pendant la guerre. Ils étaient
ils se cachaient
aussi,
également.
Donc,
oui. habitaient. Oui. Voilà. L'écriture de ce livre a dû être pour vous quand même aussi une épreuve en sachant. Ce qui attendait Luzia.
Oui, ce fut souvent difficile, c'est vrai, parce que, vous le disiez tout à l'heure, j'ai écrit ce livre au départ pour Edouard, mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis vraiment attachée à Luzia. Mmh. Et aujourd'hui, je le dis, je fais ça pour elle d'abord, pour Edouard ensuite, pour moi un peu à la fin. Mais vraiment, je me suis attachée à elle et ce fut difficile, oui.
Et puis, je pense que vous avez le sentiment d'un devoir accompli. La pensée, comme l'exprime Serge Klarsfeld, qui dit « Vous avez arraché Luzia à la fosse commune où les nazis l'avaient enfouie. Hein, » C'est lui
oui,
qui dit.
Oui, il le dit.
J'ajouterais aussi, moi, que cet ouvrage fait revivre pour chaque lecteur toute cette époque et tous ceux qui ont été exterminés par les nazis. Mais aussi, parce qu'il est difficile de concevoir que cela a pu avoir lieu en plein XXe siècle, dans
oui.
des pays si fiers de leur culture, de leur passé.
Oui.
Et même si cela entache notre mémoire nationale, je crois qu'il faut le rappeler aux nouvelles générations et les mettre en garde.
Bien, moi, je crois que oui. Alors, vous savez, quand on parle de cette période, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a eu 6 millions de Juifs exterminés. Mais ce sont des chiffres, ce sont des statistiques. On ne prend pas bien la mesure. Mais il me semble qu'à travers le destin...
Des individus.
Oui. Et de Lousia si attachante, bon, elle était comme ça, mais il me semble vraiment qu'on prend mieux la mesure de cette horreur qui a eu lieu.
Absolument.
Dites, en plein 20e siècle.
En tout cas, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un récit intitulé Lousia, écrit par Catherine Grinfogel-Drommelschlager et paru aux éditions Hermann. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, madame.